Chapitre 30. C'était le branle-bas dans la propriété de Steelbriard, un trafic incessant sur le chemin de pierre et dans la cour. Des membres de la bande, reconnaissables à leur crête et à leur tenue de cuir, mais aussi des visiteurs vêtus de costumes sobres et venus à bord de voitures de luxe conduites par des chauffeurs. Les bâtiments, parfaitement rénovés, se dressaient au centre d'une immense clairière cernée par une épaisse forêt. La maison de maître au toit pentu couvert de petites tuiles plates et rouges se prolongeait d'un côté par les écuries et de l'autre par les granges, les hangars, l'ancien four, le pigeonnier et le bleu miroitant d'une piscine en partie couverte. De temps à autre, profitant des éclaircies, des hommes et des femmes venaient s'y baigner avant de s'allonger sur les transats disposés autour du bassin. Edmé avait cru apercevoir la silhouette sombre de Calixte sur le perron de la maison. Elle raccompagnait un homme d'une cinquantaine d'années à l'allure de PDG ou de diplomate. Après une filature d'environ 5 kilomètres sur la route sinueuse, les deux flics n'avaient pas suivi le fourgon noir lorsqu'ils s'étaient engagés dans le chemin de terre. Un panneau en mauvais état indiquait un lieu-dit, la Falière. Il était évident que la voie privée ne servait aucun autre hameau. Ils avaient planqué la 307 sous le couvert et poursuivi à pied pour éviter d'être repérés, le pistolet à la main, coupant à travers la forêt à la lueur de la minuscule lampe torche de Paul, craignant de tomber sur des vigiles accompagnés de chiens. Les lumières qui brillaient à travers les ramures les avaient avertis depuis plusieurs centaines de mètres qu'ils approchaient d'une propriété. Des aboiements lointains avaient retenti, mais, trop éloignés pour être flairés par les chiens placés dans le sens du vent, ils avaient atteint l'orée de la clairière sans encombre. Ils avaient décidé de passer la nuit sur place en établissant des tours de garde.
« Il y a nettement mieux comme hôtel », avait soupiré Paul.
« Sûr », avait répondu Edmé, « mais il faut qu'on reste là. Il peut se passer des choses cette nuit. »
Après s'être confectionné un vague matelas avec des branches, des feuilles, de la mousse, ils s'étaient relayés toutes les 3 heures. À l'aube, ils étaient juchés sur l'un des chênes centenaires du bord de la clairière. Edmé avait renoué avec les sensations de l'enfance. Au moins 45 ans qu'il n'avait pas joué les acrobates dans les arbres. Le corps était plus raide, le style moins leste, mais la griserie intacte. Il s'était installé le plus haut possible, jusqu'à ce que les branches plient sous leur poids. De leur poste d'observation, ils avaient une vue d'ensemble des bâtiments et des environs. Edmé aurait donné n'importe quoi pour boire un café chaud. Il s'était contenté d'une cigarette, dégueulasse, sous le regard désapprobateur de Paul.
Bah quoi, t'as pas marqué interdit de fumer, non?
Le 6e de groupe avait haussé les épaules avant de sortir avec un rien de solennité, une petite trousse de sa poche. Elle contenait, outre sa lampe torche de la taille d'un stylo, des jumelles minuscules qui grossissaient 30 fois, et un appareil photo numérique dont les qualités, 2 gigapixels, zoom x10, étaient inversement proportionnelles au volume.
« La carte a une mémoire de 5 gigas »,
avait précisé Paul, satisfait du petit effet produit sur son équipier.
« On peut en prendre des photos avec cet engin. Le tout made in China, même pas 100 euros. Eh oui, c'est ça, la mondialisation. Faut juste pas avoir peur du modernisme, hein ?»
Petite pique à l'adresse du vieux ringard avec son clope au bec, son impair hors d'âge, son allure générale de flic à l'ancienne qui n'était même pas au courant que fumer n'était plus à la mode et ne savait pas utiliser les outils de son temps. Edmé fut obligé d'admettre que le matériel de Paul se révélait précieux dans les circonstances. Il pouvait, grâce aux jumelles, saisir les détails avec une netteté étonnante.
« Fais voir. Je crois bien que c'est elle, Calixte. »
Paul lui tendit les jumelles. Edmé les braqua sur la silhouette en noir debout sur le perron et, après une rapide mise au point, réussit à obtenir un gros plan sur un visage blême et ultra maquillé. Elle, l'égérie de la bande de psychopathes, la chatte au regard jaune et cruel, la vampiresse, plus vieille, presque décrépite dans la lumière crue de l'aube. Sa face blafarde ramena Edmé quelques jours en arrière dans le sous-sol du pavillon de Nogent. Sylvaine enchaînée à ses côtés, le baiser fougueux de Sylvaine, Sylvaine terrorisée, blessée, paralysée. Il faillit sortir son portable et appeler l'hôpital. Il renonça, trop tôt, il n'y aurait personne, aucun médecin pour lui parler. Il devait attendre, ronger son frein, concentrer toute son attention sur la bande de cinglés qu'il avait mise dans cet état.
« Alors, c'est elle ?» demanda Paul.
« Bonne pioche, » répondit Edmé. « On a bien fait de filer le train à ce fourgon.
On prévient les autres ?»«
On attend un peu et on l'observe. On sait maintenant où il se terre. »«
Combien de temps ? Je crève de faim, moi !»«
Ah bon ?
Il n'y a aucune de tes merveilles Made in China qui fait aussi distributeur ?
Ils observèrent le défilé des voitures jusqu'au début de l'après-midi, notant les plaques minéralogiques, photographiant les hommes et les rares femmes qui parcouraient les allées blanches et gravillonnées.
Vraiment précieux, les gadgets de Paul.
Les deux flics établissaient un inventaire complet des résidents et des visiteurs des lieux sans être obligés de descendre de leur perchoir, avec, pour seul inconvénient, un début de mal aux fesses, à la nuque et à la colonne vertébrale. Les gens qui affluaient à la Falière venaient de tous les milieux. On y mêlait allègrement torchons et serviettes. Les élégants costumes trois pièces côtoyaient le cuir, le jean et les sandiags. Les fringues et les maquillages vulgaires pépiaient parmi les tailleurs et les robes au chic discret. Les voitures de luxe louvoyaient entre les fourgons et les caisses pétaradantes.
« Qu'est-ce que tous ces gouillas peuvent bien foutre dans ce coin paumé ?» grogna Paul.
« Gouillas ? Un mot de chez moi. Ces mecs, ces gonds, si tu préfères.
Ça doit pas être tous les jours foule. On dirait qu'ils attendent quelque chose. Ou quelqu'un.
Ils n'ont pas tous trempé dans les noyades de la Marne, tout de même ?»«
Sûrement pas. Faut juste trouver ce qui les relie. » »«
On prévient Giovanni ?»
Edmé alluma une autre cigarette et refoula une soudaine envie de vomir. Le temps était peut-être venu d'arrêter. Il n'était plus aussi certain d'avoir besoin de clous pour fixer le couvercle de son cercueil.
Je crains que toute la brigade débarque avec ses gros sabots et que nos petits amis s'égayent comme une volée de moineaux.
Pas grave, on les a en photo.
S'ils ne sont pas fichés, ils auront tout le temps de disparaître. À mon avis, ces types-là ont tout prévu. L'idéal serait de tendre un infranchissable filet autour du domaine avant de donner l'assaut.
Mais tu sais comment est la hiérarchie. Toujours plus exigeante sur les résultats et toujours plus regardante sur les moyens. Elle risque de tout foutre en l'air.
On va tout de même pas tendre un filet à deux, objecta Paul.
Bien sûr que non. Mais je crois qu'il faut attendre encore un peu.
Si on attend trop, on va finir par prendre racine.
Ils décidèrent finalement de s'accorder 2 heures supplémentaires avant de contacter Giovanni. Edmé appela l'hôpital sans réussir à obtenir de nouvelles de Sylvaine et coupa la communication avec un soupir excédé. Les nerfs cisaillés par la mauvaise réception et la voix criarde de la standardiste. Il alluma une cigarette pour se calmer. La fumée lui arracha la gorge et une bonne partie des poumons. Pendant 1 heure et demie, ils observèrent les bâtiments et les alentours sans piper mot. Leurs estomacs se manifestèrent à plusieurs reprises par des grondements sourds et prolongés.
« Si on ne mange pas dans 2 minutes, je hurle !» marmonnait régulièrement Paul.
Ils ne remarquaient rien de notable. De petits groupes qui entraient dans la maison ou en sortaient. Quelques baigneurs, malgré les nuages qui escamotaient le soleil. Calixte fit plusieurs apparitions dans la cour, s'agitant à la façon d'une maîtresse de maison sur le point de recevoir et vérifiant les derniers détails.
« Bon, on appelle la volière !» suggéra Paul.
Edmé l'approuva d'un coup de menton résigné. Paul commençait à composer le numéro de Giovanni quand un camion déboucha du chemin et s'arrêta dans la cour dans un crissement de pneus et de freins. 2 4x4 aux vitres teintées l'escortaient, bourrés d'hommes en armes.
Voilà sûrement le truc qu'ils attendaient, souffla Edmé.
Il braqua les jumelles sur la cour. Les hommes vêtus et cagoulés de noir se déployèrent autour du camion, fusil d'assaut en main. Le pouce de Paul se suspendit au-dessus du cadran de son portable. Le chauffeur du camion ouvrit le hayon arrière. Edmé distingua des caissons ou des cercueils métalliques et, un peu plus loin, un brancard où reposait un corps. 4 hommes grimpèrent dans la remorque et descendirent les caissons, que d'autres transportèrent aussitôt à l'intérieur de la maison. Les hommes en armes jetaient des coups d'œil nerveux autour d'eux, comme s'ils craignaient une attaque. Les opérations s'effectuaient sans un mot, ni un geste superflu.
« Passe-moi les jumelles !» murmura Paul.
Edmé les lui tendit. Le 6e de groupe l'éteint un moment pointé sur la scène avant de lâcher.
« Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ces putains de caissons ?»
On ne saura pas tant qu'on ne les aura pas ouverts. Ça a l'air super important, en tout cas. Vu les précautions qu'ils prennent et les troupes qu'ils déploient, une vraie armée.
T'as pris des photos de la plaque d'immatriculation?
Évidemment, le mec dans le brancard. Il a l'air salement amoché. Sa gueule, c'est une vraie bouillie.
L'excitation envoyait la voix habituellement grave de Paul se percher dans les aigus. Il tenait maintenant une grosse affaire. Sa première grosse affaire. Il avait participé à la traque du tueur en série de l'Ouest parisien, mais il n'avait été que le rouage anonyme d'une énorme machine, tandis que là, il était l'un des premiers à remonter la piste, un éclaireur.
Il devait reconnaître que c'était surtout grâce à la ténacité d'Edmé. Lui, l'impulsif, il aurait perdu patience face à la vieille femme de Nogent. Il n'aurait pas recueilli le précieux renseignement sur la ville de Crécy-la-Chapelle. Ses professeurs lui avaient martelé à l'école de police. On en avait fini avec les vieilles lunes de l'intuition, du flair, du pressentiment, et sa courte collaboration avec Edmé venait de lui démontrer exactement le contraire. Le camion redémarra après le déchargement des caissons et s'éloigna en cahotant sur le chemin, toujours escorté des 4x4. Il ne resta bientôt dans la cour qu'une dizaine d'hommes, épaules larges, costumes sombres, lunettes de soleil, des gardes du corps dont quelques-uns tenaient des molosses en laisse. Et maintenant, contacte Giovanni. Dis-lui de faire les choses en douceur. Faut absolument éviter que tout ce petit monde se volatilise dans la forêt. On retourne à la bagnole et on surveille l'entrée du chemin en attendant l'arrivée des renforts.
Paul essaya de joindre le chef de groupe, mais tomba sur sa boîte vocale.
Jamais là quand on a besoin de lui, le Corse. Pas question de lui laisser un message. Je suis pas vraiment sûr qu'il consulte régulièrement sa boîte. Je le rappellerai plus tard.
Ils descendirent du grand chêne en s'appliquant à ne pas faire craquer les branches et, longeant le chemin à environ 20 mètres de distance, ils rejoignirent la route qu'ils traversèrent après s'être assurés qu'elle était déserte. Paul tenta de rappeler Giovanni, tomba à nouveau sur sa boîte vocale, pressa rageusement la touche de son téléphone en proférant un juron. Ils s'engagèrent dans l'étroit chemin forestier bordé de fougères dans lequel ils avaient planqué la 307. Une lourde chape de silence pesait sur les lieux. Les oiseaux ne chantaient plus, les arbres eux-mêmes se retenaient de frissonner. Edmé tira son pistolet et déverrouilla le cran de sûreté. « T'as entendu ou vu quelque chose ?» Edmé fit signe à son équipier de se taire et, du bras, désigna les fougères et les arbustes proches. Paul se munit également de son arme et marcha d'un pas prudent en lançant des coups d'œil aigus sur les environs. Ils commencèrent à se détendre lorsqu'ils aperçurent la voiture garée dans la végétation quelques mètres plus loin.
« On va pas y passer la nuit !» gronda Paul. « J'essaie une dernière fois de joindre Giovanni. S'il ne répond pas, j'appelle le divisionnaire adjoint, d'accord ?»
Edmé ne parvenait pas à se tranquilliser. Une tension permanente dans la nuque, comme s'il était la cible de plusieurs regards. Aucun mouvement, aucun frisli n'agitait la pénombre de la forêt. Le commissaire divisionnaire décrocha au bout de 3 sonneries. Paul n'eut même pas le temps de se présenter. Des hommes vêtus de combinaisons et de cagoules noires surgirent du couvert, armés de fusils d'assaut. La soudaineté de leur intervention ne laissa aucune possibilité de réagir aux deux flics. Du canon de son arme, l'un d'eux intima l'ordre à Paul de couper son portable et de le jeter devant lui. Un autre s'approcha d'Edmé et lui retira son pistolet. Il portait les mêmes tenues que ceux qui avaient escorté le camion quelques instants plus tôt. Sans doute l'une de ces milices privées, constituées de mercenaires aguerris, qui, lorsqu'elle ne prenait pas part à l'un des nombreux conflits ensanglantant certaines régions de la Terre, se louait au plus offrant. Des machines à tuer. Aucune pitié à attendre de ces types. Edmé eut une pensée pour Sylvaine. Il n'avait pas envie de lâcher, pas envie de renoncer, pas maintenant qu'elle habitait sa vie, qu'elle chevauchait chacune de ses pensées. Même s'il devait pousser son fauteuil d'infirme jusqu'à la fin de ses jours, il ne l'abandonnerait pas. Il garda les yeux baissés, pas question de les défier et de leur donner un prétexte pour le tuer. L'homme qui tenait Paul en joue, un balèze, s'approcha de lui, le fouilla à son ménagement, arracha son portefeuille de la poche intérieure de sa veste, en vérifia d'une main le contenu, montra aux autres la carte barrée de bleu et de rouge protégée par le plastique transparent de l'étui.
« Des flics, bordel !» grogna l'homme.
Ils s'agitèrent. L'un d'eux écrasa d'un coup de talon rageur le téléphone portable de Paul.
« Les autres, là, ils nous ont dit qu'on risquait rien, qu'on était protégés !» glapit un autre.
Un autre s'approcha d'Edmé. Ses yeux ouvraient des fenêtres de ciel matinal dans la fente de sa cagoule.
« Qu'est-ce que vous foutez là? Qui vous envoie ?»
Edmé ne répondit pas. D'un geste, son vis-à-vis ordonna à l'un de ses acolytes de poser le canon de son fusil d'assaut sur l'abdomen de Paul. « Soit tu racontes tout ce que tu sais, soit on tire dans le bide de ton pote et on l'enterre avant qu'il soit mort. » Paul adressa un regard implorant à Edmé. Qui pouvait avoir envie de crever à son âge? La vie n'était jamais autant désirable, autant fabuleuse, que lorsqu'on était sur le point de la perdre.
« On est sur une enquête, » répondit Edmé. « Quel genre d'enquête ?»
L'homme qui braquait Paul lui enfonça brutalement le canon de son arme dans le ventre.
Une bricole, un trafic de bagnole. Des yeux bleus du vis-à-vis d'Edmé flamboyèrent. « Te fous pas de ma gueule ! Deux flics de Paris se déplacent pas dans le fin fond de Seine-et-Marne pour un simple trafic de bagnole !» s'adressant à son acolyte, sans se retourner.
« Lâche-lui une rafale dans le bide, ça leur déliera peut-être la langue. »«
Attendez !» intervint Edmé. « Ça a...
Un rapport avec les cadavres trouvés dans la Marne. »
L'autre marqua un temps de silence. Paul ne respirait plus. « Y en a d'autres que vous au courant ?»
Edmé hésita. Il fallait les maintenir sous pression tout en évitant de les affoler.
Leur panique pouvait se retourner contre Paul et lui. Le premier réflexe des criminels traqués était de faire place nette avant de battre en retraite.
« Personne. On n'a pas eu le temps de prévenir notre chef de groupe, mais ils savent qu'on est dans le coin. »«
Ils vont intervenir ?» reprit l'homme d'une voix forte.
« Pas tout de suite, » répondit Edmé.
En général, le groupe s'inquiète au bout de 3 ou 4 jours, quand deux de ses hommes manquent à l'appel.
Le regard de Paul lui brûlait la joue et la tempe gauche.
« Qu'est-ce qui me dit que je peux te croire ?
Vous êtes du bon côté du flingue, non ?»
L'homme réfléchit, les yeux toujours fichés dans ceux d'Edmé, comme pour tenter de pénétrer son esprit.
« On les garde vivants pour l'instant, » dit-il enfin d'une voix sourde.
« Ils nous ont raconté des salades, et le regretteront. »
Edmé entrevit du soulagement sur les traits de Paul. Leur situation n'était pas brillante, mais ils avaient gagné l'essentiel. Du temps.